Merci d'écouter RFI, les 2 heures à Paris, minuit en temps universel.
Delphine Liu.
À la une de l'actualité, la Cour suprême retarde une nouvelle fois la possibilité d'un procès fédéral avant l'élection présidentielle de novembre. C'est une victoire pour le camp Trump, analysera la spécialiste des États-Unis, Anne Desine, dans ce journal. La question des désistements au cœur de l'entre-deux-tours en France pour faire barrage à l'extrême droite. Mais pour l'instant, le concept de front républicain divise au centre et à droite. En revanche, la gauche parle d'une seule voix. Il était l'un des rares auteurs d'Albany connus et traduits dans le monde entier, Ismaël Kadare, l'auteur du Général de la mer morte, s'est éteint ce lundi à Tirana. Nous entendrons sa voix dans ce journal, une voix éprise de liberté. La décision de la Cour suprême sur l'immunité de Donald Trump crée un dangereux précédent. Déclaration de Joe Biden à l'instant après la décision de la plus haute juridiction du pays de renvoyer aux juridictions inférieures la question de son immunité pénale en tant qu'ex-président. Donald Trump est accusé, pour rappel, d'avoir tenté d'interférer sur les résultats de l'élection de 2020 remportée par Joe Biden. Et cette décision de la Cour suprême retarde encore la tenue d'un procès fédéral à Washington. Peu de chance en effet que ce procès puisse se tenir avant l'élection présidentielle de novembre. Pour la juriste et spécialiste des États-Unis, Anne Desine, c'est effectivement une victoire pour le camp Trump.
Ce que fait la Cour, elle renvoie à la juridiction de première instance. C'est malheureusement, une fois de plus, très politique et très partisan. C'est une décision qui est rendue par 6 voix, celle des 6 pseudo-conservateurs, mais un petit peu radicaux, contre les 3 progressistes qui écrivent des choses très très dures sur le contenu de la décision. En ayant refusé de prendre l'affaire en urgence et en ayant pris tellement de temps pour statuer, la Cour suprême a joué dans le camp de Trump en mettant en jeu ses manœuvres dilatoires. C'est-à-dire que ça sera très difficile d'avoir même un début de procès avant l'élection en raison de tous ces retards.
Anne Desine, juriste et spécialiste des États-Unis. En revanche, l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, a commencé à purger sa peine de prison. Il avait refusé de coopérer à l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole en janvier 2021. Il avait donc été condamné en octobre 2022 pour entrave au pouvoir d'enquête du Congrès, condamné à 4 mois de prison. En France, le front républicain au cœur de l'entre-deux-tours, 155 candidats engagés dans des triangulaires se sont déjà désistés afin de contrer l'extrême droite. Le Rassemblement national est arrivé avec plus de 33% en tête du premier tour, un score historique selon un décompte provisoire de l'AFP. Invité du 20h de TF1, Gabriel Attal dit assumer les désistements pour barrer la route à l'extrême droite. Une majorité absolue pour le Rassemblement national serait catastrophique pour les Français, selon le Premier ministre. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, lui dénonce une alliance du déshonneur dans un sens comme dans l'autre. Le nouveau Front populaire lui enregistre près de 28% des voix. Cinglante défaite pour le parti présidentiel Renaissance qui ne recueille que 20,8% des voix. Les candidats encore en lice ont jusqu'à ce mardi 18h de Paris pour décider de se retirer et réduire ainsi drastiquement le nombre de triangulaires au deuxième tour, 306 précisément. Et si à droite et au centre, la stratégie du désistement ne fait pas l'unanimité, à gauche en revanche, le message est très clair, comme a pu le constater Victorien Villaume lors d'une réunion ce lundi, une réunion de députés du NFP réélus dès le premier tour. Mathilde Panot, Éric Coquerel, Clément Coquerel, Clémentine Autain, Daniel Obono, Émeric Caron, tous appellent à faire barrage au RN.
Devant micro et caméra, les députés de gauche fraîchement élus défilent tour à tour. Quelques sourires, mais le ton est grave avec un message principal. Malgré la position de favori du RN, la victoire est possible. Olivier Faure, du Parti Socialiste.
Il n'y a que 400 000 voix entre l'extrême droite et nous. Il y a aujourd'hui des désistements dans toute la France et donc personne ne connaît le résultat final.
Mais à 24 heures de l'échéance, certains candidats de la majorité refusent de se retirer pour favoriser un candidat de gauche, Nouveau Front Populaire. L'écologiste Sandrine Rousseau leur lance un appel.
La majorité va se jouer à quelques voix. Donc en fait, à chaque fois qu'ils failliront sur le barrage, ils offriront la possibilité d'une élection d'un député RN. Et cela, vraiment, j'en appelle à la responsabilité de chacun.
L'insoumis Éric Coquerel, lui, ne manque pas de dénoncer le flou entretenu par la majorité sur le barrage républicain.
Que des gens hésitent entre ces gens-là et ceux qui appuient un programme où il n'y a pas une mesure anti-républicaine. Au contraire, il y a des mesures qui mettent en avant la liberté, l'égalité, la fraternité. Je trouve ça désolant. Mais après, ils font ce qu'ils veulent, leurs électeurs ne suivront peut-être pas.
Pour l'instant, environ 50 candidats de la majorité présidentielle se désistent. Reste à savoir si les électeurs macronistes seront au rendez-vous du Front républicain.
Je m'engage à être président pour tous les Mauritaniens, sans exception ni discrimination. Déclaration de Mohamed Ould Ghazouani, élu président au premier tour de la présidentielle. Le chef de l'État sortant a obtenu 56% des voix selon des résultats officiels provisoires. Mais son principal rival, le militant anti-esclavagiste Biramda Abeid, qui a reconnu 22% des voix, l'a annoncé ce dimanche. Il ne reconnaîtra pas ces résultats instrumentalisés selon lui par le pouvoir. Le coming out de Brenda Biya peut-il faire bouger les lignes au Cameroun ? Ce dimanche, la fille du président, Paul Biya, s'est affichée sur les réseaux sociaux avec sa compagne qu'elle embrasse et qu'elle déclare aimer à la folie. Elle souhaite que tout le monde le sache. Une sortie qui n'a pas manqué de susciter moult réactions, le Cameroun étant connu pour réprimer et emprisonner les homosexuels. Pour l'avocate et militante des droits des LGBT, maître Alice Com, le président Paul Biya n'a plus guère le choix. L'homosexualité doit être dépénalisée, selon elle.
Maintenant que ça se sait, qu'elle a rendu ça public, je pense que le président de la République lui-même, en tant que législateur, va se sentir interpellé. Est-ce que moi, Paul Biya, législateur et papa de Brenda, je peux continuer à soutenir l'emprisonnement et la pénalisation des enfants des autres Camerounais alors que je ne le fais pas pour ma fille? Alors si je ne le fais pas pour ma fille, je dois réfléchir à comment, plus jamais, parce que c'est moi le premier législateur, président de la République. Je ne peux plus continuer à fermer les yeux sur la pénalisation de l'homosexualité au Cameroun.
Alice Com au micro de Polycarpe Essamba. Le grand écrivain albanais Ismail Kadare s'est éteint ce lundi à Tirana en Albanie. Depuis son premier roman, Le Général de l'Armée Morte en 1963, il avait écrit une cinquantaine d'ouvrages, romans, théâtre, poésie, avec la volonté constante d'afficher sa liberté face au totalitarisme. Ismail Kadare avait obtenu l'asile politique en France en 1990, mais vivait depuis quelques années entre les deux pays. En 2017, il était l'invité de Catherine Fruchon-Toussaint pour la sortie de son livre « Matinée au Café Rostand », le café, symbole de liberté pour Ismail Kadare, on l'écoute.
L'Albanie, c'est un pays qui avait beaucoup de café, toujours. Même maintenant, j'ai lu il y a quelques jours dans la presse, Tirana, c'est parmi les capitales européennes qu'il y a le plus grand nombre de cafés. J'ai écrit dans mon livre que pendant le régime communiste, les cafés, ils ont perdu un peu leur mystère, etc., parce que le régime n'aimait pas.
Oui, ça veut dire que le café, c'est un espace qui symbolise la liberté, la création artistique.
La liberté de penser, de parler, de dire les choses pas officielles, les choses qui changeaient beaucoup de langage de la presse, de meeting, de conférence, de plénum, etc. Le café, c'était beaucoup plus humain, toujours.
Ismail Kadare avec Catherine Fruchon-Toussaint, c'était en 2017 dans l'émission Littérature sans frontières sur RFI. La garde à vue de Benoît Jacquot et Jacques Doyon pourrait durer jusqu'à mardi soir, selon des sources proches du dossier cité par l'AFP. Les deux cinéastes sont entendus depuis 9h30 heure de Paris à la brigade de protection des mineurs. Ils sont accusés par plusieurs actrices, dont Judith Godrèche, de violences sexuelles. Les deux hommes contestent ces accusations. Les Bleus en quart de finale face au Portugal. Les Bleus qui ont battu les Diables Rouges à Düsseldorf grâce à un but contre son camp du Belge Yann Vertonghen à 5 minutes de la fin. L'équipe de Ronaldo, elle s'est imposée face à la Slovénie grâce au tir au but. Elle peut dire merci à son gardien qui, après avoir arrêté un tir pendant les prolongations, a arrêté tout simplement les 3 pénaltys tirés par les Slovènes pendant la séance de tir au but. Et puis c'est une première sur le Tour de France. C'est un Érythréen, Binyam Guéné, qui a remporté la 3e étape de la course. C'est la fin de cette édition.